Alors, nous sommes de retour, moi, Manon et Sandy. Alors, tantôt, on disait qu'on avait vu Mary au niveau de l'évolution des symptômes de l'épuisement professionnel à la phase 1. Il y a quatre phases, comme on vous disait. Alors, la phase 1, on a comme avertissement que les premiers signes sont plus souvent de nature affective que physique. Il peut s'écouler un an ou plus avant que la personne n'en prenne conscience. Alors, Mary, on voit que c'est un an pour qu'elle... au moins qu'elle en parle. Alors, puis qu'elle admette, qu'elle conscientise du moins qu'elle a quelques symptômes. Oui.
Non, je pensais à son directeur avant de parler des symptômes. Je me disais, son directeur, là, dans tout ça, là, il y aurait peut-être une petite tâche à faire pour se regarder le nombril. Hein, parce que, tu sais, je pensais à ça, puis je me disais, je veux pas le juger, là, c'est une scène qu'on a pris comme ça, puis qu'on a fait. Mais
oui.
il a jamais cherché, en tout cas, il m'a pas semblé ça, là, qu'il a cherché à comprendre la situation ou à aider Marie. Il a pas essayé d'y fournir des solutions, mais pas du tout. Il s'est empressé de remettre ses compétences en question. Ça passe pas, c'est toi qui est le problème, tu sais. C'est pas ma décision de couper un poste le problème, c'est ta capacité à faire les tâches des deux personnes à toi seule. Fait que moi, je trouve, ce qui est important, c'est que quand les tâches et l'organisation du travail n'est pas claire, bien, les gestionnaires, bien, ils peuvent pas avoir une idée claire du travail que les travailleurs accomplissent, là. Puis ça, ça a vraiment un impact, tout à l'heure, tu l'as dit, sur les évaluations. Fait que j'en profiterai peut-être pour interpeller les directeurs ou, en tout cas, peu importe, là, les rôles de gestionnaire que vous avez. Mais si vous avez des employés, prenez le temps de les écouter comme il faut avant de les juger ou de remettre leurs compétences en question. Bien, prenez le temps de voir c'est quoi les éléments qui ont pu perturber la qualité de leur travail, et s'il y a des éléments extérieurs à leurs compétences, bien, de faire attention puis prendre vos responsabilités là-dedans. Parce que quand il y a, je ne sais pas, il y a sûrement aussi un aspect des lieux physiques qui peut nuire aussi à la qualité du travail, là.
Bien, oui, parce que ça, dans le secteur tertiaire, moi, j'ai remarqué souvent que les postes de travail, l'ergonomie n'était pas du tout suivie. Des fois, là, juste là, un clavier mal placé, un écran cathodique mal placé, ça peut entraîner des tendinites, des douleurs au cou. Ça, c'est des sources sérieuses, hein, on peut dire, d'épuisement. Alors, et dans le secteur primaire et secondaire, à un moment donné, j'ai dû embaucher des employés qui devaient travailler dans la chaleur et une haute odeur de vinaigre. Alors, dans la saison où on cueillait les cocombes. Alors, c'était pour les mettre dans des pots, dans des pots, c'est ça. Mais ça, c'est reconnu que quand on travaille dans des conditions de travail aussi difficiles, ça peut amener aussi de l'épuisement professionnel. Alors, la chaleur, la pollution, les fortes odeurs, le bruit.
Un air climatisé trop fort.
Oui.
Je parle pas en connaissance de cause du tout, là.
Oui, j'ai raconté à Sandy que quand je travaillais dans un immeuble du centre-ville de Montréal, l'été, qui faisait très chaud, on rentrait dans l'immeuble et c'était hyper climatisé. On avait tellement froid qu'on devait se mettre une petite laine, comme on dit, puis on sortait dehors, puis c'était la canicule, et il y a beaucoup de gens qui tombaient malades. Alors, ça, c'est vraiment à prendre en compte.
Bien, puisque ça me... Ce que ça m'amène aussi à réfléchir, c'est ça a une importance, bien, en fait, c'est très relié, oui, sur la qualité du travail accompli, donc sur l'épuisement professionnel, mais sachez que l'épuisement professionnel, c'est pas un caprice de vos employés, là. C'est une question de santé et de sécurité au travail. Une personne pourrait bénéficier d'un congé, soit d'un congé maladie, d'un congé physique, si jamais elle est vraiment malade plus que ça, mais ça peut avoir des conséquences aussi pour l'entreprise, le financier. Tu sais, on sait que les employeurs marchent souvent quand il y a de l'argent, on commence à comprendre de quoi. Bien, quand on parle de santé et sécurité au travail, l'épuisement professionnel en fait partie. Alors, plus vous travaillez en prévention, en amont, pour pas qu'il y ait d'épuisement professionnel dans votre milieu, plus vous diminuez les risques que les gens aient recours à la CSST. Et l'autre message que j'aurais à dire, c'est que si vous êtes un employé et que vous vivez un épuisement professionnel, bien, allez vous chercher un papier médical et utilisez la santé et sécurité au travail. Vous avez un programme qui est là, qui est la CSST, qui est là pour vous protéger. Donc, avant que cet épuisement-là prenne et ait des répercussions sur l'ensemble des facettes de votre vie, bien, prémunissez-vous du droit qui vous est offert. Donc, la CSST, prenez un congé pour essayer de reprendre le dessus, là.
Puis, exactement, dans le qu'est-ce que tu soulèves au niveau des gestionnaires, on le dit souvent dans le livre que c'est payant, justement, d'éviter l'épuisement professionnel, parce que c'est très coûteux pour l'entreprise.
Oui, effectivement.
Oui.
En congé maladie, tâches et autres.
Oui.
Et autres trucs.
Exactement.
Alors, les différentes phases de l'épuisement professionnel.
Oui, alors souvent, dans les signes, on va avoir une anxiété vague. Alors, c'est pour ça que dans la scène, à un moment donné, je demande si la mairie vit de l'anxiété, de la dépression. Je pose cette question-là aussi. De l'ennui, de l'apathie.
Apathie, en passant, ça veut dire que, vous savez, quand vous avez la misère à vous lever, que vous êtes comme les épaules courbées par en dedans, vous êtes mou, tu sais, ça... T'sais, on a l'impression qu'il faudrait brasser une personne pour qu'elle réagisse. Là. C'est comme, ben OK, mais t'as pas d'énergie, t'as pas envie de faire de quoi. Puis la personne est toujours, ah non, j'ai juste envie de dormir, écrasée sur mon sofa. Ça, ça est apathique. Là.
Ouais, c'est. Puis la fatigue émotionnelle, encore, comme je disais dans la scène.
Puis. Fait que si je comprends bien, les premiers signes sont souvent de nature affective, là. C'est pas nécessairement physique. Là.
Ouais. Okay. Ouais, bien qu'on peut avoir des signes physiques aussi, là, hein, c'est. Alors, puis les mesures à prendre, on parle de parler de ses sentiments, bien sûr, hein? C'est ventiler, d'en parler, c'est toujours recommandé.
Et là, il faut faire une différence, une distinction. Parler de ses sentiments, c'est essentiel. En parler au milieu de travail pour que les choses changent, c'est essentiel. Si vous notez qu'il y a quelque chose dans votre milieu de travail qui est mal organisé puis qui nuit à votre rendement, c'est important de le dire, sinon c'est sûr que ça ne pourra pas changer. Mais faites attention parce que quand ça devient... Faut pas que ça devienne du règlement de compte. Oh hey, j'ai dit ça à mon employeur, puis il veut rien faire, puis c'est un ci, puis c'est un ça. Puis si vous avez besoin de faire ça, ventilez ailleurs qu'au milieu de travail, parce que la discrétion, dans beaucoup de cas, ça a toujours sa place. Ça l'évite d'avoir des mesures de représailles, d'avoir un avis disciplinaire, comme quoi on a fait de l'insubordination ou des choses comme ça. Fait que de prendre le temps de bien faire les choses. Parler de ses sentiments, c'est essentiel. On fait attention, on en parle à un professionnel de la santé, à des amis, à des collègues en qui on a confiance, mais il ne faut pas que ça prenne toute la place non plus. Tu sais, j'imaginerais une personne qui prend davantage de pauses parce qu'elle a besoin de ventiler. Fait que là, elle est tout le temps à côté sur le bureau de ses collègues à chialer contre son boss ou à chialer contre le milieu de travail. Bien, cette personne-là pourrait être victime de représailles, tu sais, qui serait jusqu'à tout, tu sais, jusqu'à preuve du contraire, acceptable, tu sais, dans le sens où, oui, tu peux te plaindre, mais tu ne peux pas nuire au milieu de travail non plus. Fait que c'est le juste un milieu à trouver.
Ouais, puis ce que tu racontes, j'ai déjà vu ça, puis la personne s'est fait dire qu'elle avait pris du temps de pause pour syndiquer le personnel.
Oui, ça...
Pour tenter de syndiquer le personnel.
Fait que ça aussi, ben ça n'a rien à voir avec l'épuisement professionnel, non. Mais tu sais, il faut faire attention, au bon endroit, parce que nous, notre rôle, c'est toujours de protéger les employés. Fait que oui, on comprend que les gens ont besoin de parler, mais savoir quand, où et à qui,
ouais.
Ça peut nous protéger d'un éventuel congédiement ou mesure de représailles qui peut être une suspension, n'importe quoi. Des fois, c'est pas toujours aussi gros qu'un congédiement, mais des choses qu'on veut pas avoir à notre dossier d'employé.
T'sais. Exactement. Ouais. On dit, comme Marie le demande, de prendre des vacances. Mais c'est sûr qu'il faut se changer les idées. Il ne faut pas tout le temps penser à ça, ruminer. Mais c'est sûr que dans le cas de Marie, que juste prendre des vacances puis revenir, elle va se retrouver dans la même situation. Alors, dans certains cas, oui, on peut juste prendre des vacances, ça va nous faire du bien. Mais quand il y a une désorganisation comme Marie, il n'y a pas juste ça à faire. On écrit « changer d'activité », mais Sandy puis moi, on en parlait.
On se disait « qu'est-ce que ça peut vouloir dire? »
Oui.
Fait que là, si on interprète, et c'est une interprétation, on va faire contacter avec les auteurs du livre pour vraiment avoir le thème exact, c'est qu'on se dit « bon, ça peut être de... vous savez, si vous travaillez dans un... vous avez plusieurs choses à faire, ça peut être de dire « bon, bien, écoute, j'accroche sur ça, là, ça aboutit pas, je vais le tasser, puis je vais faire quelque chose qui est moins lourd pour moi, qui va me permettre de me ressaisir, d'être fière de ce que j'ai fait. » Fait qu'on tasse une petite tâche, on fait quelque chose, on change d'activité pour changer le mal de place. Puis on reviendra une autre fois à ce qui nous pèse un peu plus de faire. Mais j'imagine que dans certains cas, ça peut aller jusqu'à changer d'activité professionnelle,
ouais.
Changer de job. Il y a des fois où... Je pense à Marie, si... Puis c'est important de le faire parce que dans le cas qui nous... Marie, OK, qui est une surcharge de tâches, on a enlevé la secrétaire adjointe puis on lui a refilé l'ensemble des tâches. Peut-être que son employeur, là, après lui en avoir parlé, il va lui répondre « Écoute, le poste maintenant, c'est ça. Et nous, on juge qu'on est capable de trouver une personne qui est capable de mener toutes ces tâches-là de front et de bien les faire. » C'est malheureux, là, c'est super triste, mais ça se peut que le gestionnaire, lui, dise « Moi, je suis persuadée que je suis capable de trouver quelqu'un qui a le potentiel pour faire ça puis qui va me coûter seulement un employé. » Alors, ça se peut que la réflexion, ce soit « ben si c'est pas moi cet employé-là, ça va être un autre », puis que la solution, ce soit de changer d'activité puis d'en prendre un qui est à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Ça veut pas dire que la personne est pas bonne dans ce qu'elle fait, elle peut juste... Des fois, on atteint juste un degré où, ben là, les exigences sont trop élevées. Puis s'il faut, c'est peut-être que l'employeur, dans quelques semaines, il va se réveiller puis il va dire « Mon Dieu, elle me manque énormément puis ça n'a pas de bon sens. » Puis il va vous rappeler puis il va vous offrir une augmentation de salaire. Puis ça, c'est dans mes lubies, là.
Mais ça se peut très bien parce que moi, j'ai vu un poste qui était affiché par une municipalité. On ne parle pas de Sherbrooke du tout. C'était un poste de secrétaire et ça faisait 6 fois qu'on changeait de personne. Alors, ça se peut que le poste soit, la façon dont il est conçu, ça soit irréalisable.
Exactement. On ne peut pas remplir les attentes avec ça.
Oui. Ou ça se peut que le poste ne soit pas conçu, ne nous convient pas à nous, qu'on a tout à fait des choses extraordinaires à offrir au marché du travail, mais ce poste-là n'est pas conçu pour nous. Quand j'avais une équipe d'éducateurs, des fois, il y avait... Ça arrivait qu'il y avait des mises à pied à faire, mais je disais à la personne, c'est pas parce que t'es une mauvaise personne du tout, mais tout comme moi, t'es pas faite pour être un éducateur à temps plein. Je te vois très bien dans un autre domaine. Alors, c'est pas une question de se remettre complètement en question.
Puis c'est des choses qui sont difficiles à faire.
Ah, hein? Complètement.
Tu sais, quand on est dans un milieu de travail, parfois on peut avoir d'excellentes conditions de travail, on se dit... Peut-être qu'on peut constater qu'on n'est pas à la bonne place. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de perdre les avantages qu'on a.
Eh oui!
Fait que ça, c'est un travail que les gens ont à faire, mais en qualité de vie, des fois, entre supporter un travail pour lequel on n'est pas fait et vivre de l'épuisement professionnel constamment parce qu'on n'y arrive pas. La qualité de vie, là, qu'est-ce qui nous attend entre-temps? En tout cas, je n'ai pas apporté de jugement sur les gens, mais il faut que cette réflexion-là... soit faite.
Et des fois, c'est des gros changements de carrière pour les gens. Moi, j'ai connu des personnes qui avaient fait le bac de 4 ans en sciences d'éducation, qui ont enseigné quelques années, qui ont vu que c'était pas pour eux, puis qui ont retourné aux études après, mais qui avaient quand même fait un bac de 4 ans.
Oui.
Alors,
ça prend beaucoup d'humilité pour faire ça.
Oui, de retourner aux études des fois à 40 ans. Ouais. Mais bon, des fois, c'est la solution pour certains.
Puis en phase 1, là, on s'entend, c'est pas encore catastrophique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire?
Prendre du temps pour soi.
OK. Ça, c'est tellement plus facile à dire qu'à faire, mais effectivement, c'est une solution. D'ailleurs, là, avis à tous, si vous avez des heures supplémentaires d'accumuler ou quoi que ce soit, tu sais, prenez-la, là. Prenez des congés. Puis surtout, là, l'été, là, il y a tellement peu de journées de beau temps ces derniers temps. Quand vous en verrez une, prenez congé. Encore là.
Aux États-Unis, il n'y a pas de vacances prévues dans la loi, puis il y a beaucoup de gens qui se privent de prendre des vacances, et ça a un effet très néfaste.
Savez-vous qu'au Canada, c'est la première chose que les gens ont gagné, c'est le droit à des vacances.
Ah, je ne savais pas ça du tout.
Ça fait longtemps, là, on parle de plus de 100 ans. Là.
Intéressant quand même. Là, si on veut connaître aussi la progression des symptômes, on est en phase 2. Parce que la phase 1, on l'appelle avertissement.
OK.
Puis la phase 2, on l'appelle le symptôme léger. C'est des signes précurseurs qui ont progressé, là. Les premiers signes qu'on a nommés, là, à la phase 1, là...
Ils sont plus importants.
Ils sont plus importants au bout de 6 à 18 mois, là. Si ça n'a pas été réglé à la phase 1, là. Puis là, les signes physiques qui apparaissent.
OK.
Donc, là, on peut commencer à avoir des troubles du sommeil, des maux de tête, des rhumes plus fréquents, puis des douleurs musculaires aussi. On sait souvent qu'on a des douleurs musculaires reliées au stress. Plus grande fatigue physique et émotionnelle. Une diminution des contacts avec les autres. Irritabilité. Hein? Quand on est plus fatigué, stressé, on est moins patient, on est plus irritable, c'est normal. Puis là, en dépression, ça va être plus grave là, que la phase 1.
Puis ça, là, je vais vous le dire une chose. On vous donne des idées de temps. Tantôt, on a dit dans la première année, après, on est rendu quasiment à 18 mois. ça peut être plus rapide pour certaines personnes, ben ça oui. peut être plus lent pour d'autres. Là, on s'entend, c'est des références larges. Mais les symptômes, lorsque vous êtes rendu à les vivre, ben c'est le temps d'agir. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure, en plus de ceux qu'on a déjà nommés, qui seront toujours bonnes, là, prendre des vacances, changer d'activité, parler de ses sentiments, ça ne nuira jamais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Bien là, on dit qu'il peut être nécessaire de changer d'habitude de vie de façon marquée.
OK.
Oui, et puis de recourir au counseling à court terme.
Qu'est-ce que tu entends par counseling?
Bien là, je ne veux pas parler à la place de l'auteur. Je ne sais pas, est-ce que c'est d'aller voir un psychologue?
OK. On parle d'un professionnel, c'est
oui,
ça?
Oui, je connais quelqu'un qui va voir, bon, la personne a les moyens, elle va voir un conseiller en orientation puis une psychologue en même temps.
OK.
Puis s'il y a un programme d'aide aux employés dans votre entreprise, bien allez-y.
Ben oui, utilisez-le. Mon Dieu, tant mieux pour vous. Là.
Ouais,
c'est ouais. rare. Fait que si vous l'avez, utilisez-le.
Oui, mais de ne pas avoir peur d'aller chercher des services. C'est ça qui est important.
Puis quand on parle de changer certaines habitudes de vie, ben j'imagine qu'on peut faire référence parce que ça peut prendre diverses formes en fonction des personnes, mais ça peut être, bon, de s'alimenter mieux, de prendre plus de temps pour soi, hein, des fois, de dire, bien, je vais couper sur certaines affaires, puis je vais garder du temps à moi parce que je pense que ça va me faire du bien, de vraiment trouver des moyens pour avoir plus d'énergie puis être mieux dans notre peau.
Oui, oui, oui. Puis ça aussi, c'est facile à dire.
Ben oui.
Mais c'est ce qui est recommandé. Après ça, on a la phase 3 qui est le stress cumulatif et profond. On entre dans cette phase lorsqu'on n'a pas tenu compte là, des symptômes plus légers qu'on a énumérés tantôt. Là. Alors là, le stress commence à avoir des répercussions plus graves sur la carrière, la vie familiale, puis le bien-être personnel. Alors, on peut avoir une augmentation de la consommation d'alcool, de la cigarette, puis de médicaments en vente libre. Là, on parle de dépression profonde, de fatigue physique et émotionnelle encore. On peut avoir des ulcères, on peut avoir des mésententes conjugales, des crises de larmes. Là, on parle d'anxiété intense. On peut avoir un comportement avec de la rigidité. On peut avoir du repli sur soi, de la nervosité, puis on parle encore d'insomnie.
Vous savez, des fois, quand on entend rigidité, c'est aussi musculaire. C'est les gens qui vivent... Il y a vraiment des parties de ton corps qui sont raides, 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 puis que tu as de la misère à déplacer.
Ah, bien là, c'est peut-être plus ça qu'on veut dire, Sandy.
Oui, je voulais pas te reprendre, mais c'est parce qu'on l'entend souvent en physiothérapie. On dit que des gens qui vivent la rigidité, c'est quand tu es tellement stressé qu'il y a une partie de ton corps. Moi, j'ai une amie qui l'a vécu récemment. Son cou tournait plus. C'était vraiment le stress. C'est un stress puis une légère, une mauvaise action au niveau du corps qui a déclenché ça. Mais le physio, il dit normalement, ça se répare vite. Il dit quand ça se répare pas vite, c'est que la personne est vraiment très stressée. Fait que c'est travailler ça. Fait que des fois, ça peut être ça, mais ça peut être bien d'autres affaires.
Moi, je seconde pour ton interprétation.
On réfléchit avec vous, là, on le fait ensemble.
Ça me surprendrait qu'on ait... Oui, moi, je seconde.
OK.
Puis les mesures à prendre, c'est qu'il est fortement recommandé de solliciter l'aide de professionnels de la santé ou de psychologues.
Puis vous savez, rendu à ce stade-là, parce que les gens qu'on accompagne en harcèlement psychologique ont souvent vécu ce genre de symptômes-là, d'accord? Puis la mauvaise organisation du travail est aussi un élément qui peut être relié à du harcèlement psychologique. Et quand on est rendu à cette étape-là, souvent notre réseau, il est épuisé. On a parlé de nos sentiments, on en parle tout le temps parce que ça prend toute la place dans notre vie, les problèmes qu'on vit au bureau. Et souvent, on commence à épuiser pas mal notre réseau. Il n'y a plus personne autour de nous qui veut en entendre parler de notre problème. Fait que c'est d'autant plus important d'aller chercher une ressource d'un professionnel qui va être capable de vous orienter, de vous aider à mieux comprendre votre situation puis à passer à travers.
Qui est à l'extérieur de nous, de Exactement. Nos proches. Hein? Si on en parle à nos sœurs, à nos amis...
Bien, des fois, c'est excellent, puis d'autres fois, bien, tu sais, les gens nous aiment un peu trop, fait que là, ils prennent toujours notre défense, le jugement des autres va être un petit peu moins clair que quand c'est quelqu'un de l'extérieur. Puis le professionnel, bien, il est habileté à faire ça, il est habitué, c'est dans ses tâches, dans les ressources qu'il y a eues à l'école. Alors, c'est important, là, aller chercher l'aide là où elle est.
Exactement.
Et la dernière phase?
C'est symptômes graves indiquant une réaction cumulative au stress et l'affaiblissement de la personne. Alors, cette phase est souvent considérée comme autodestructrice. Là, on ne parle pas de rien. Là. Elle se produit en général à la suite d'une période de 5 à 10 ans de stress continu.
Puis là, ce que j'entends, c'est que ça peut aller jusqu'à un suicide, là.
Oui.
OK. Puis, te souviens-tu, puis sans faire un grand débat, là, mais te souviens-tu en France des nombreux suicides dans les... Il y a eu plein de topos récemment
pour
là-dessus.
Pour une compagnie de téléphone, entre autres. Il y a eu, j'ai pas étudié le dossier en profondeur, là, mais il y aurait eu une réingénierie à l'intérieur de cette compagnie-là, et puis il y aurait eu des suicides.
C'est ça. Alors faites attention, on ne veut pas que vous vous rendiez non. jusque-là.
Non, non, exactement. Puis on parle de fin de carrière prématurée, de problèmes cardiaques, de graves dépressions, de diminution de l'estime de soi ou de la confiance en soi, incapacité de faire son travail, repli sur soi, colère, chagrin, rage incontrôlée, idée d'homicide ou de suicide. On parle même d'homicide, oui. là. Ça peut aller loin. Puis on sait que des homicides, là, il y en a de... Il n'y en a pas beaucoup, mais on en parle plus qu'avant, malheureusement. Mm-hmm. Là. Tremblement musculaire, fatigue chronique extrême, réaction exagérée à des événements mineurs. Vous voyez, là, nos perceptions changent rendues à ce niveau-là. Agitation, accident fréquent.
Alors là, ce que je comprends, c'est que dans les mesures à prendre, c'est, oui, utiliser les services d'un psychiatre ou d'un psychologue, des choses comme ça, mais c'est aussi d'aller voir un médecin là, pour être médicamenté, diagnostiqué, puis être sûr qu'on ne fasse pas de folie. Là.
Ah oui, là, c'est la protection de nous, de nos pères, de notre famille. C'est très important.
Manon, j'ai trouvé l'émission très intéressante. Une dernière fois, je te demanderais de donner le titre du livre si jamais les gens veulent s'y référer.
Alors, c'est « À vos marques, prêt gérer la GRH pour gestionnaire » sous la direction de Annie Bourris et Denis Chenevert aux éditions du Renouveau pédagogique.
Super! Alors là-dessus, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Le numéro de téléphone 819-569-9993. Vous pourrez toujours nous trouver sur Internet en tapant « Illusion emploi ». Notre site web, je vous rappelle, illusionemploi.org, avec 3W avant, évidemment. Le courriel illusion@aide-internet.org. Là-dessus, je vous souhaite une très belle journée, puis on se revoit dans deux semaines. Merci, Manon, d'avoir été là.
Ça me fait plaisir.